Soyez les bienvenus, il est 8h. Et c'est le journal de Florence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. On le sait encore trop peu, un verre d'alcool suffit à faire des dégâts quand on est enceinte. Les dyslexies et autres chez les enfants par exemple, les médecins doivent le faire savoir davantage. À la une également, une dernière salve de mesures pour les urgences, dévoilée cet après-midi par Agnès Buzyn. Les médecins généralistes militent pour le développement du 116-117, un numéro pour orienter les patients. Après la fin brutale des pourparlers entre les États-Unis et les talibans afghans décrétés par Donald Trump ce week-end, Hamid Karzai, l'ancien président afghan, demande la reprise des négociations dans la transparence. Nous l'entendrons dans ce journal. Son précédent ouvrage fut un succès mondial. Le revoilà avec un nouvel essai, un économiste dans ce studio.
Oui,
Nicolas.
Florence, il s'agit de Thomas Piketty qui publie Capital et idéologie. C'est aux éditions du Seuil. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Intervenez 01 45 24 7000. Les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal aussi, Marine Le Pen indécise sur la PMA pour toutes, la fin des juiceurs, ces rechargeurs de trottinettes électriques payés à la trottinette. Et puis Nadal, sacré à l'US Open, son adversaire Medvedev a été vaillant pourtant.
France Inter.
Une coupe de champagne pour un anniversaire, un demi-verre de vin à Noël, c'est pas grand-chose. Pourtant, ce simple verre, quand on est enceinte, peut entraver le développement d'un bébé. 8000 enfants naissent chaque année avec un syndrome d'alcoolisation fœtale en France, sans compter tous ceux qu'on n'a pas diagnostiqués et qui ont des retards d'apprentissage, par exemple. Zéro alcool pendant la grossesse, on le sait, mais pas assez, ce sont les experts qui le disent. À l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation au syndrome, les soignants, Daniel Messager, n'en parlent pas assez à leurs patientes.
Enceinte à 19 ans, Rose déplore que pas une fois le sujet alcool n'ait été abordé pendant le suivi médical de sa grossesse, alors qu'on lui a souvent parlé des méfaits du tabac.
J'ai appris que j'étais enceinte donc au bout de 8 semaines. J'ai arrêté de consommer de l'alcool régulièrement et j'ai simplement bu un verre de vin, mais vraiment occasionnellement. Aujourd'hui, ma fille souffre de dyscalculie, donc elle a des problèmes avec les maths, elle a des problèmes avec les consignes, il faut faire des phrases simples, elle a tellement de problèmes, il faut que le message passe.
Une forte consommation d'alcool peut entraîner des malformations de tous les organes, une moindre consommation aura plutôt des répercussions sur le développement psychomoteur de l'enfant. Le docteur Denis Lamblin est pédiatre, expert dans la lutte contre l'alcoolisation fœtale.
Le cerveau, c'est l'organe le plus sensible à l'alcool, et les dégâts, on les voit quand l'enfant va commencer à parler, aller à l'école, et ben c'est là que l'enfant va avoir du mal. Tous les troubles des apprentissages, les dyslexies, dysphasies, peuvent être dus à des alcoolisations, même ponctuelles. On boit un verre, il y a un risque. Donc le conseil zéro alcool pour la grossesse serait quelque chose qui doit être martelé. Osez en parler si vous n'y arrivez pas pour qu'on puisse vous aider.
Pour que le message passe encore mieux, il faudrait par exemple un pictogramme zéro alcool pour la femme enceinte bien plus visible sur les bouteilles. C'est en discussion, mais rien n'est arrêté. Pour l'instant, il mesure un tout petit centimètre au dos de la bouteille.
Et une femme sur 10 déclare avoir consommé de l'alcool occasionnellement pendant sa grossesse.
Il est 8h04, ces annonces aujourd'hui, Florence, vont-elles mettre fin à la crise des urgences ?
Agnès Buzyn en réserve la primeur aux principaux concernés. Cet après-midi, les représentants des soignants, de la direction des hôpitaux, le collectif interurgence et les médecins libéraux dans son bureau, alors que la moitié des services d'urgence de France sont en grève. La ministre promet un budget et des réorganisations cette fois. Il est aussi question, sans confirmation, d'un numéro unique pour toutes les urgences, alors que les généralistes ont lancé le leur, le 116-117, qui permet de trouver un rendez-vous rapidement chez le médecin pour éviter de passer aux urgences. Les syndicats demandent sa généralisation, Véronique Julien.
Connaissez-vous le 116-117 ? A priori non, et pourtant ce numéro est déjà expérimenté depuis quelque temps dans trois régions en France, Normandie, Corse et Pays de la Loire. Il souffre pour l'instant d'un évident déficit de notoriété. Il répond pourtant à un vrai enjeu, comment faire quand on a besoin d'un rendez-vous médical urgent et que son médecin traitant n'est pas disponible. Pour éviter de passer systématiquement dans ces cas-là par la case urgence, ce numéro animé par des généralistes cherche une solution en médecine de ville. Jacques-Baptiste Ony préside le syndicat de généralistes SystemG France.
Derrière le 116-117, il y a ce qu'on appelle une régulation médicale, c'est-à-dire à quelqu'un de permanence qui est capable de répondre aux gens en leur disant à qui s'adresser pour leur demande de soins. Ça va être tantôt un médecin qui va être d'astreinte, ça va être tantôt dans une maison de santé pluriprofessionnelle, une organisation avec une consultation dédiée, ça va être éventuellement aussi une maison médicale de garde. Vous allez avoir des professionnels qui vont se relayer.
Les syndicats de médecins libéraux appellent les pouvoirs publics à généraliser ce numéro et les généralistes à y prendre leur part. D'après MG France, un médecin qui s'engagerait dans ce dispositif n'aurait pas tant de travail que ça. Il aurait grosso modo une charge supplémentaire équivalente à environ une consultation par jour. Dans les régions qui ont mis en place ce numéro, l'affluence a déjà diminué aux urgences, précise le syndicat, pour des problèmes simples de type mal de gorge, cystite ou mal de dos.
Et après son passage chez la ministre, le collectif Interurgence se réunira demain en Assemblée Générale. Son président envisage déjà de nouveaux arrêts maladie groupés si la potion d'Agnès Buzyn ne semble pas assez efficace. Et puis à l'Élysée, c'est Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a rendez-vous avec Emmanuel Macron à midi. Leur sujet, ce sera les retraites. La discussion s'annonce compliquée et risque d'être longue, selon Laurent Berger.
Et là, de discussion, il n'y a plus.
Depuis samedi, le fil est rompu entre l'administration Trump et les talibans d'Afghanistan. Donald Trump y a coupé court après un attentat à Kaboul jeudi dernier, en annulant une réunion secrète avec les chefs talibans à Camp David. Les deux parties étaient pourtant sur le point de trouver un accord de paix au terme d'un an de négociations et de 18 ans de guerre, sans avoir associé le gouvernement afghan, ce qui n'est pas la bonne façon de faire, selon l'ancien président Hamid Karzai, que notre envoyé spécial Valérie Crova a rencontré à Kaboul.
Dans sa résidence ultra sécurisée de Kaboul, Hamid Karzai consulte. L'ancien président afghan est un spectateur engagé et favorable à un dialogue avec les talibans, ses frères afghans comme il les appelle, mais contre l'organisation de l'élection présidentielle prévue à la fin du mois. La priorité pour Hamid Karzai est d'abord de trouver un accord pour sortir de la guerre, avant d'organiser un scrutin. La décision de Donald Trump de rompre brutalement les pourparlers engagés avec les talibans est une occasion manquée, dit-il, et Hamid Karzai de dénoncer le jeu trouble du locataire de la Maison Blanche.
Nous voulons que les Américains reprennent les pourparlers, mais nous leur disons également qu'ils doivent travailler avec transparence. Le président Trump a tweeté qu'il avait invité les talibans et le gouvernement afghan à Camp David dans le plus grand secret. C'est un manque de transparence. Les Américains doivent reprendre les pourparlers et le faire en toute honnêteté vis-à-vis des Afghans.
Selon le chef de la diplomatie américaine, les États-Unis pourraient revenir à la table des négociations à condition que les talibans s'engagent à ne plus commettre d'attentats. Ce à quoi ces derniers ont répondu par un avertissement. Nous poursuivrons notre djihad tant que les Américains n'auront pas retiré leurs 14 000 soldats encore en Afghanistan. La paix n'est donc pas pour demain. Kaboul, Valérie Crova, France Inter.
Et l'international djihadiste a encore fait couler le sang au Burkina Faso hier. 29 tués dans deux attaques dans le nord du pays. Un convoi de triporteurs chargé de vivres a notamment été visé. Dans le reste de l'actualité, à l'étranger, le Hezbollah dit avoir abattu un nouveau drone israélien qui venait d'entrer au Liban. Boris Johnson au Royaume-Uni tentera aujourd'hui de faire voter des élections anticipées au Parlement. La démission, sans doute, dans la journée du patron de Nissan au Japon, qui reconnaît avoir trafiqué pour obtenir des primes plus grosses que prévues. Et puis ce typhon qui s'est abattu sur la région de Tokyo. Plus de 400 000 personnes avaient été appelées à évacuer.
Il est 8h08, Florence, c'est le genre de sujet qui dépasse les clivages politiques.
La PMA dans le projet de loi bioéthique autorisée aux couples de femmes et aux femmes seules. Les députés en débattront à partir d'aujourd'hui en commission, divisés au sein de leur parti. Certains sont contre à La République En Marche, d'autres sont pour chez les Républicains. À l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen et pour sa petite fille Marion Maréchal est contre, et Marine Le Pen dans tout ça. Elle en discutera en bureau national du RN ce matin avant de tenter, Maxence Lambrec, de faire la synthèse.
S'y opposer sans déraper, Marine Le Pen avait trouvé la formule la plus habile avec les gilets jaunes, soutenir, relayer sans jamais appeler à manifester. Elle veut retrouver ce juste milieu, apparaître moins conservatrice que sa nièce, mais sensible à ce dossier. Certains en interne l'invitent à s'abstenir lors du vote. Ce serait céder au politiquement correct, à notre projet de société, s'agace un cadre. Elle va voter contre, mais n'a déposé aucun amendement et ses fidèles non plus. Dossier sensible, tout comme celui du mariage homosexuel qui fait encore débat. Voilà ce qu'en dit sur LCI le vice-président Jordan Bardella.
Je considère, si vous voulez, que comme une majorité de Français, que le mariage pour tous est désormais un acquis.
Un acquis, cela fait bondir Nicolas Bay, vice-président du groupe européen, qui lui rappelle sur CNews la position officielle du parti.
Clairement, revenir sur cette loi pour lui substituer un pacte amélioré, en quelque sorte, qui aglerait les droits fiscaux et patrimoniaux, mais sans s'engager sur le terrain de l'affiliation.
Revenir au pacte ou acter le mariage, Marine Le Pen hésite et l'actualité va sans doute l'obliger à trancher.
Et le projet de loi sera débattu dans l'hémicycle dans 15 jours. Qui veut reprendre Aigle Azur ? On le saura dans la journée, alors que 13 000 passagers sont toujours sans solution pour rentrer en France, dont 11 000 en Algérie, selon le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari dans Le Parisien aujourd'hui en France. Des passagers en rade depuis l'arrêt des vols vendredi soir, comme ceux de British Airways aujourd'hui. Mais là, c'est temporaire, une grève des pilotes. Presque 100% des vols sont annulés au Royaume-Uni.
Et c'est un métier qu'on a découvert, Florence, l'an dernier.
Oui, alors que les trottinettes électriques se multipliaient comme des petits pains sur les trottoirs des grandes villes, des juiceurs payés à la tâche étaient chargés de recharger ces engins, souvent toute la nuit. Les juiceurs, c'est fini chez Lime et Bird. Les deux opérateurs vont embaucher pour pouvoir répondre au prochain appel d'offres de la ville de Paris qui ne veut pas cautionner l'ubérisation de leur modèle, Mathilde Dehimi.
La scène a contenté leurs détracteurs sur les réseaux sociaux. Sous un tunnel à Paris, un cycliste filme une rangée de trottinettes électriques en charge. Elles sont branchées sur un générateur à essence. Dangereux, polluant, une aberration sociale, disent les plus critiques, car les juiceurs, ceux qui rechargent ces trottinettes, sont payés à la tâche, avec un statut d'auto-entrepreneur précaire, une ubérisation dont ne veut pas la mairie de Paris, qui a prévenu les opérateurs que les critères sociaux et environnementaux seront pris en compte lors de son appel d'offres. Des remarques désormais prises en compte par les deux plus gros opérateurs, Bird et Lime. Arthur-Louis Jacquier, directeur général de Lime France.
Nous leur demanderons d'avoir un lieu de recharge qui respecte les normes de sécurité. On n'aura plus des personnes qui vont recharger dans leur salon ou dans des parties communes, au contraire que dans les entrepôts aménagés. Et aussi avoir des véhicules adaptés, seulement des véhicules professionnels qui vont répondre aux normes écologiques, et avoir un van, par exemple électrique, va être un vrai plus pour nous dans le processus de sélection.
Lime, qui rémunérait jusqu'à une centaine de jouisseurs par soir, met donc fin à leur collaboration d'ici le 20 octobre, avec pour certains, à la clé, des CDI. Une démarche déjà lancée par Bird qui annonce recruter une centaine de personnes en CDI ou en intérim pour la maintenance de ses trottinettes.
Un policier légèrement blessé à Grigny dans l'Essonne hier. Avec sa patrouille, il a essuyé des tirs de mortier en voulant contrôler une voiture dans laquelle a été ensuite retrouvé un kilo de cannabis. Et toujours ces incendies tard dans la saison, des dizaines de maisons ont dû être évacuées dans l'Hérault à Loupian et Bouzige où le feu a été fixé dans la soirée hier soir. Donc, Nadal a souffert, mais Nadal a vaincu, qui a remporté cette nuit son 4e US Open, le 19e tournoi du Grand Chelem de sa carrière, en battant Daniil Medvedev en 5-7 et presque 5 heures de jeu. Le jeune russe de 23 ans s'est battu comme un lion pour sa première finale à un si haut niveau.
Comme je dis toujours, comme un sportif de haut niveau, je suis jamais content de perdre, mais je suis fier de moi. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon corps, dans mes mains, et j'ai joué contre un des meilleurs joueurs de tennis d'histoire du tennis, et j'ai tout donné. Je peux être fier de moi, mais je savais que je suis sur un match où je peux pas lâcher. Il faut juste essayer de tenir. Il a la pression pour finir le match, c'est normal, et finalement j'étais capable de revenir. Et Match dur, mais je suis content de moi quand même.
Voilà, un match homérique pour ceux qui ont pu le suivre au cœur de la nuit, Daniil Medvedev dans un français exceptionnel au micro de Fabrice Abgral. Quant à Nadal, l'Espagnol n'est plus qu'à un trophée des records de Federer, Sampras et Connors. Souvenez-vous, Raphaël Nadal, le loup des terrains du Grand Chelem, il en est un autre aussi sympathique qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Si vous avez des enfants, vous le connaissez. C'est le loup qui voulait changer de couleur, faire le tour du monde, ou le loup qui n'aimait pas Noël. Personnage incontournable des premières lectures du soir avant de s'endormir, Jacqueline Pétrose.
Salut les copains, moi c'est Lou, le plus sympa.
Quand on regarde l'Allemand créer ce loup sympathique, cool et attendrissant, c'est pour faire oublier la peur qu'il suscite chez sa fille et les enfants en général, et elle n'imagine pas son impact.
J'ai travaillé sur le thème du loup avec des CE1. Je suis arrivée avec des synopsis d'histoire, et dedans il y avait le loup qui voulait changer de couleur, où j'imaginais ce loup qui ne s'aimait pas. C'était un titre sur l'apparence. Et je me suis rendu compte très vite en travaillant avec les enfants que ce thème les touchait beaucoup. Et ce loup, c'est devenu une collection parce qu'il y a eu un engouement incroyable des lecteurs, des instituteurs, parce qu'il y avait un contenu à la fois pédagogique et une étoffe. Et il y a eu une histoire d'amour qui est née et qui continue aujourd'hui.
Son look drôle et pataud lui vient d'Éléonore Tuilier qui s'amuse toujours des réactions des petits.
Ça les intrigue beaucoup de savoir pourquoi il a un œil plus grand que l'autre. Ça me fait toujours rigoler. Donc je leur dis que ça lui donne un petit air ahuri qui est rigolo. Et puis parce que aussi on n'est pas parfait, il n'est pas parfait non plus.
À ce loup, les enfants imaginent plein d'aventures, y compris très romantiques, originalement.
Je reçois des petits livres où les enfants ont écrit, où les enfants ont dessiné pour inventer une aventure, parce qu'ils aiment tellement ce personnage que ça les emmène dans l'écriture. Et c'est pour ça que je vais dans les écoles, c'est pour leur donner cette flamme-là. Mais leur but ultime, les cœurs dans les yeux, c'est quand est-ce qu'ils se marient avec Louvre.
Pour cet anniversaire, spectacle musical et album collector sont prévus. On va faire une super fête pour les 10 ans de Louvre.
Et je vous préviens, ça va détonner!
Et ben voilà, et on vous prévient que la collection intégrale du loup est disponible aux éditions Ozou pour le spectacle musical dont Jacqueline Pétrose vient de parler. C'est à partir du 5 octobre au Palais des Glaces à Paris, avant une tournée dans toute la France.
Merci Florence Paracuelos, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Il fait froid ce matin, Marie-Pierre.
Oh, bah oui, Nicolas, bah, couvrez-vous bien en sortant du studio. Bon, nous, il gèle pas encore sur Paris. Par contre, il gèle déjà dans le centre du pays, moins à Aubusson ou à Romorantin. On ne dépasse pas les 2 petits degrés dans l'Est, 3 à l'intérieur des Landes. Contraste avec les 22 relevés déjà en Corse à Solenzara et les 16 à Nice. Il fait 8 à Bordeaux, à Lyon, 10 à Paris et Strasbourg. Alors, côté ciel ce matin, on a une perturbation qui a réussi à vaincre les hautes pressions et rentre et gagne la Bretagne jusqu'au Cotentin, accompagnée d'un bon vent d'ouest. Et le ciel sans nuages au fil de la matinée de la Normandie jusqu'au Pays de la Loire, au bassin parisien. Puis attention aussi, des brouillards ce matin encore, du Val-de-Saône jusqu'aux plaines d'Alsace et au sud de la Loire. Donc ce sera un lundi au soleil avec un petit vent sur les côtes varoises à la Corse.
Les pluies gagnent la moitié nord dans l'après-midi.
Oui, avec les hautes pressions, ces pluies ne seront pas assez significatives pour diminuer la sécheresse. Une ondée donc possible de la Normandie, Hauts-de-France à la région parisienne, alors qu'un temps plus variable avec quelques averses reviendra sur la Bretagne en fin d'après-midi. Midi, puis sur les régions du sud, le soleil brille, le vent se calme en Méditerranée, mais le ciel se voilera en fin de journée. Ça annonce un épisode méditerranéen pour demain sur le Languedoc et le Roussillon. Puis côté du mercure, eh bien, ça ne va pas monter bien haut, pas plus de 15 sur les côtes d'Armor, 18 à Rouen comme à Lille ou Nancy, 17 à Langres, comptez 20 à Paris et à Clermont-Ferrand, 22 à Montpellier, 22 à Bordeaux, 23 à Montpellier, voilà. 25 à Nîmes et 26 à Ajaccio.
Marie-Pierre Planchon, merci.